Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à la Goulue, la petite blanchisseuse de Clichy nommée Louise Weber a été repérée au bal du Moulin de la Galette par une sorte d'agent, Charles Desteuc, qui s'apprête à lui faire une proposition qui va changer la vie de la jeune fille. Épisode 2. Sous les ailes du moulin. Nous sommes en 1882, à Paris, au restaurant du Grand Véfour, qui existe toujours aujourd'hui, quasiment tel qu'il était à l'époque. La Goulue a 16 ans. Le Grand Véfour, ce restaurant prisé de la bonne société, se trouve au Palais Royal, au cœur du Paris festif et chic. Louise a accepté la proposition de Charles Desteuc. Elle l'accompagne à un bal masqué. Elle n'a jamais vu de si beaux décors. Il y a des grands miroirs et des moulures dorées à leur fin. Ça y est, elle fait son entrée dans le grand monde. Mais elle le fait en laitière. Desteuc l'a déguisée en fille de ferme avec un très grand décolleté qui offre ses seins au regard comme des melons bien mûrs et une jupe trop courte. On voit ses mollets. Avec son visage un peu poupon, ses yeux bleus vifs et son haut chignon blond foncé, la Goulue fait sensation. Tous les hommes bavent littéralement sur elle, si bien qu'elle se demande si tous ces messieurs ont déjà vu une femme. Enfin, elle ne dit pas « ces messieurs », elle dit « c'est crevé ». Oui, vous avez remarqué que son langage est un peu plus fleuri que le mien. Mais ça gouaille. Son franc-parler et son argot des quartiers ouvriers font fureur. Tant de vulgarité au milieu des lambris dorés, ça met les invités en transe. La Goulue est lancée. Dans les semaines qui suivent, elle est régulièrement invitée. Elle accepte uniquement si elle en a envie. La Goulue peut coucher avec des princes ou des ouvriers, l'important, c'est que l'homme lui plaise. D'ailleurs, son amant de cœur du moment n'est pas Charles Desteuc, mais Charles Tazzini, un des ménageurs grossiers dont elle se fait tatouer le nom sur le bras. Vous vous rendez bien compte qu'une fille tatouée à l'époque, c'est très rare. Et c'est le comble de la vulgarité. D'ailleurs, elle le regrettera bien assez vite, au point de danser avec un gant qui dissimulera le nom de cet amant de passage. En 1884, à 18 ans, la Goulue danse souvent à l'Élysée-Montmartre, une nouvelle salle de bal. C'est le dernier endroit à la mode où viennent tous ceux qui veulent se faire remarquer. Mais l'Élysée-Montmartre est plus qu'une salle de bal. C'est aussi un lieu de spectacle où sont embauchées des danseuses professionnelles. C'est là que la Goulue est présentée à Lucienne Beuse, une vraie professionnelle de la danse, car elle gagne sa vie en se produisant sur scène. On conseille à la Goulue de prendre des cours particuliers avec elle parce que oui, elle danse bien, mais elle n'a aucune technique. Lucienne Beuse est une des reines du cancan professionnel. Elle est jeune, brune et mince. Son surnom dans le métier, c'est Grille d'égout. Bon, c'est pas joli, mais c'est fréquent à l'époque, ces surnoms peu flatteurs. Grille d'égout, c'est à cause de ses dents espacées qui forment comme une grille d'égout quand elle ouvre la bouche. C'est donc avec Grille d'égout que la Goulue va apprendre les figures incontournables du cancan. Parce que le cancan, c'est très codifié. Allez, je vous explique. Musique. D'abord, le plus important, c'est le lever de jambe. On relève d'abord son jupon jusqu'à la taille et on lève la jambe jusqu'à la hauteur des yeux. Oui, j'ai bien dit des yeux. C'est un grand écart en équilibre sur une jambe en portant des bottines à talons. Ensuite, il y a le port d'armes. C'est quand on tient sa jambe en l'air comme un fusil en faisant un salut militaire. C'est pour se moquer des soldats. Après, il y a la cathédrale. C'est quand deux danseuses forment le toit d'une cathédrale en entrelaçant le talon de leur bottine et en levant la jambe. Ça permet aux danseurs masculins de glisser en dessous. C'est pour se moquer des grenouilles de bénitier. Et puis il y a la roue, bien sûr, et le grand écart jeté. Là, attention, n'essayez surtout pas de le faire chez vous. La danseuse s'élance, fait un grand écart en l'air et retombe sur le sol en grand écart en s'amortissant sur les mains. Et tout ça en poussant des cris aigus. Et enfin, il y a le coup de cul. Ce sera la spécialité de la Goulue, un coup de fesse en relevant son jupon pour montrer ses culottes. La Goulue se fait même broder un cœur sur ses dessous qu'elle montre en faisant cette figure. Bon, vous l'aurez compris, danseuse de cancan, c'est un métier. Et c'est pas le plus simple au Music Hall. Si vous voulez voir un vrai cancan, comme le dansait la Goulue, il faut aller au Moulin Rouge. La Goulue intègre vite les leçons de Grille d'Égout et elle commence à se produire en duo dans plusieurs salles de spectacle, y compris à l'Élysée-Montmartre. Parmi les piliers de barre du lieu, il y a un petit homme d'1,50 m. Il a un collier de barbe, des petites lunettes, et bien qu'il ait la vingtaine, il marche avec une canne. Accoudé au comptoir, il croque les danseuses. Il adore dessiner les filles. Évidemment, la Goulue lui tape dans l'œil. Et voilà comment la reine du cancan se lie d'amitié avec le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, qui la dessine si bien. Mais il n'y a pas que Henri qui l'a remarqué à l'Élysée-Montmartre. Il y a aussi Joseph Holler, entrepreneur de spectacles de son état, et son associé Charles Zidler. Ils cherchent des danseuses pour leur tout nouvel établissement de spectacle qui va ouvrir dans quelques mois. Le Moulin Rouge est inauguré le 8 octobre 1889. Suivez-moi, on va essayer de se faufiler en jouant des coudes. Il y a tellement de monde, regardez. Des courtisanes, des chanteuses, des comédiennes, des bourgeois en goguette. Et vous avez vu cette salle avec son éclairage électrique ? Il y a tellement de girandoles allumées avec leurs pampilles en verre qui reflètent la lumière qu'on n'y voit plus clair qu'en plein jour. Allez, sortons de là et allons voir les jardins. Oula, vous avez vu cet éléphant ? Mais non, pas de panique, c'est un faux. Vous voyez bien qu'il fait au moins 15 mètres. Il y a des tables partout, des pistes de danse, plusieurs scènes, des attractions genre tir à la carabine. C'est le temple de la fête. Et puis il y a plein d'artistes, comme des clowns et surtout des danseuses. Et la reine du lieu, c'est la Goulue. Pendant 6 ans, de 1889 à 1895, elle règne sur le Moulin Rouge. Elle est payée 600 francs par mois quand les autres filles sont en moyenne à 180 francs. Mais c'est justifié. D'un coup de jambe bien placé, elle fait valser les chapeaux de forme des messieurs. Les autres danseurs et danseuses, même les meilleurs comme Valentin le Désossé, ont du mal à la suivre. Mais Valentin prend plus de distance avec tout ça. Il ne veut pas être payé. Il vient, il danse et il repart à sa vie bourgeoise. Un soir, le directeur du Moulin Rouge passe dans les coulisses. Attention, le prince de Galles est dans la salle. Alors que tout le monde s'affole, la Goulue reste silencieuse. Sur scène, elle offre l'une de ses meilleures prestations. L'un de ses camarades dit d'elle qu'elle ne danse pas. Elle est la danse. Elle finit son numéro par un grand jeté au pied de la scène et repart sans saluer. Piqué au vif, le prince de Galles lui fait offrir des fleurs. Alors la Goulue redescend dans la salle, pique une rose entre ses seins et s'écrie « Hé Galles, t'offres le champagne ou c'est ta mère qui régale ?» Bon, pardonnez-moi, il m'est impossible de reproduire sa gouaille, mais même avec mon mauvais accent titi parisien, vous imaginez le malaise. Holler et Zidler sont convaincus que cette invective est un accident diplomatique. Mais non. Le prince de Galles, qui est un habitué des maisons closes parisiennes comme le Chabanais, le plus prestigieux bordel de Paris, s'en amuse et paye sa tournée. Ils seront amants pendant quelque temps. Le rythme est soutenu au moulin. Mais en 1895, la Goulue, qui a maintenant 29 ans, est épuisée et les jeunes veulent prendre la relève. Souvent, elle se bat avec d'autres danseuses sur le pont de Caulaincourt qui passe au-dessus du cimetière de Montmartre. C'est comme un duel, mais entre filles, le crépage de chignon à la place du revolver. Le peintre Toulouse-Lautrec adore monter les filles contre la Goulue pour le plaisir de les séparer avec sa canne quand elle se rue dans le caniveau. Et puis en 1895, la Goulue est enceinte. Cette fois, elle refuse de faire appel à Mort aux Gosses, la faiseuse d'anges de Montmartre. Elle ne sait pas trop qui est le père, mais cette maternité lui dit qu'il est temps de quitter les ailes du moulin. La Goulue pense qu'elle est assez connue pour se débrouiller toute seule. Bon, c'est vrai que Toulouse-Lautrec l'a aidée à se faire une réputation de star en la dessinant sur les affiches du moulin, les jupons relevés. Comme à ce moment-là, elle vit confortablement, elle investit dans une baraque de forain qui sera son propre petit établissement de spectacle. D'ailleurs, elle produit un premier spectacle de danse orientale avec 8 filles et des costumes brodés de sequins. Le Moulin Rouge l'accuse de concurrence déloyale, mais ça ne lui fait pas peur. Seule la fin de sa grossesse l'oblige à faire une pause dans sa carrière. Elle décide de s'occuper de son fils, Simon Victor, pendant un an. Mais elle s'ennuie vite. Alors, elle retrouve sa baraque. Toulouse-Lautrec lui a peint de belles toiles pour la décorer. On voit la goulue danser au moulin. Ces toiles se trouvent aujourd'hui au musée d'Orsay. Mais les années passent et d'autres danseuses ont remplacé la goulue dans le cœur du public. C'est le début de la déchéance. C'est dans les fêtes foraines qu'elle rencontre Adrien Peson, un prestigieux dresseur de fauves. Il est intelligent, bien élevé, et il a une superbe ménagerie héritée de son père avec des lions, des hyènes, des pumas. La goulue adore les animaux. Alors elle veut apprendre à dompter avec son nouvel amant. Voilà la danseuse dans les cages des fauves, à faire des numéros avec les bêtes sous les yeux ébahis du public. Mais en 1904, c'est l'accident. Un puma attaque son compagnon. Elle lui vient en aide et elle est blessée aussi. La presse en fait ses choux gras. Le petit journal du 24 janvier en fait sa une avec un dessin en couleur. La goulue, reconnaissable à son chignon, tente de retenir la bête qui mord sauvagement son Adrien. Le couple ne tient pas longtemps. La goulue se met ensuite à la colle avec un prestidigitateur, achète une ménagerie, vend des confiseries à la fête à Neuneu, à Neuilly ou à la foire du trône. Avec les années et l'alcool, elle s'est empâtée. Elle n'est plus que l'ombre de la goulue. Après la Première Guerre mondiale, le Moulin Rouge rouvre ses portes. Il a fait peau neuve après avoir subi des incendies et des fermetures successives. Ce n'est plus le Moulin Rouge de la goulue, c'est celui de Miss Tinguette, frêle brunette aux longues jambes et au sourire Colgate. En 1925, la goulue a 59 ans. Elle est bouffie, méconnaissable et ruinée. Ravalant sa fierté, elle écrit à Miss Tinguette dans l'espoir que la nouvelle star lui donne l'opportunité de danser à nouveau. Miss Tinguette ne répondra jamais. En 1928, la danseuse de revue Jeanne Aubert, plus généreuse que Miss Tinguette, invite la goulue au Moulin Rouge. Elle remplace Miss Tinguette pendant que celle-ci est en tournée aux États-Unis. C'est la dernière fois que Louise verra ce lieu qui l'a rendue célèbre. C'est l'adieu à sa jeunesse et à la vie. Elle meurt l'année suivante à 63 ans. Elle est enterrée dans la plus grande discrétion au cimetière de Pantin. En 1992, le corps de la goulue est exhumé et transféré au cimetière Montmartre à la demande d'un lointain parent. Il faut attendre 2021 pour qu'à l'initiative de sa biographe Marilyn Martin, la ville de Paris donne son nom à un jardin au cœur de Montmartre. Louise Weber, alias la goulue, a retrouvé symboliquement et physiquement ce quartier à l'histoire duquel elle sera toujours associée. C'est la fin de ce récit consacré à la goulue. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et un podcast, c'est comme un quadrille. Je ne le danse jamais seul. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Et moi, l'auteur et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.